enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Actes, chapitre 4. Nous allons lire pratiquement tout le chapitre. Il est assez long. Et nous allons enseigner, on va pratiquement finir l'école de la prière avec l'avant-dernier enseignement, donc qui est la prière d'union, on peut dire aussi prière d'unité. Et comme je l'ai dit, je vais enseigner sur les obstacles à la prière, les obstacles à la prière efficace. Donc tout ce qui peut constituer un blocage lorsque vous priez, ce qui peut empêcher votre prière d'être efficace. Amen. Ça sera dimanche prochain. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler donc de la prière d'union, de la prière d'unité. Au chapitre 4, verset 1, la Bible dit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Amen. La Bible dit que l'église donc qu'ils ont démarré le jour de la Pentecôte avait tellement grandi que maintenant ils étaient au nombre de 5000. Et ce qui se passe, c'est que les dignitaires religieux ont vu en eux une menace. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont arrêtés. Et ils les ont mis en prison. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la résurrection. Ils disaient que après notre mort, le Seigneur va nous ressusciter pour que nous puissions vivre avec lui. Et pour eux, c'était un problème. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Et leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? On leur reprochait aussi d'avoir accompli, d'avoir fait un miracle. Et donc, ils leur ont demandé, bon, par quel pouvoir, par quelle puissance, et avec l'autorité de qui, au nom de qui, vous avez fait ce miracle? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le monde d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ensuite, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Donc ils ont été surpris de voir l'audace et la manière avec laquelle Pierre s'exprimait, l'assurance qu'il avait, la détermination qu'il avait, parce qu'il connaissait Pierre. Il savait que ce n'était pas un homme qui avait fait un doctorat en théologie. Il savait que ce n'était pas un grand intellectuel. Il savait que ce n'était pas quelqu'un qui avait fait les grandes écoles. Mais pourtant, Pierre se tenait avec assurance et il avait un langage clair et propre, rempli de sagesse et rempli de puissance. Et ces gens-là étaient surpris, d'autant plus que ils le connaissaient comme un pêcheur de poissons qui un jour a décidé de suivre Jésus, et le voilà qui aujourd'hui rentre dans un temple parce que il a guéri un boiteux de surcroît que tout le monde connaît comme boiteux, qui est assis à l'entrée du temple depuis des années et des années. Donc tous les fidèles, toutes les personnes qui vont à la synagogue, toutes les personnes qui sont rentrés là, le connaissent comme boiteux. Tu sais, souvent, Dieu attend avant d'intervenir dans ta vie parce qu'il veut que son intervention dans ta vie soit un témoignage pour un maximum de personnes. Qu'un maximum de personnes soient au courant des difficultés que tu traverses pour qu'un maximum de personnes soient au courant du miracle qu'il aura opéré dans ta vie. Alléluia. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que les gens puissent donner gloire à son nom aussi à travers le miracle qu'il accomplit. Nous, souvent, on est pressé parce que on veut que Dieu nous guérisse rapidement. Mais des fois, Dieu a besoin que les gens sachent que tu es malade. Là, comme ça, lorsqu'il te guérira, les gens sauront que c'est l'Éternel des armées qui t'a guéri. Alléluia. Et donc, ce boiteux-là était un témoignage parce qu'en Israël, tout le monde le connaissait. Le boiteux était devant le temple et il était là, tout, il demandait de l'argent à tout le monde. Chaque personne qui venait les regardait. Et voilà qu'aujourd'hui, Pierre, qui arrive devant le temple, dit, je n'ai ni argent ni or, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vraiment, ça ne pouvait pas les arranger. Pierre leur dit, écoutez, il n'y a aucun autre nom sur cette terre-là par lequel on doit être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Et donc, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Alléluia. Des fois, il y a des choses qui parlent plus que des paroles. Ce sont les miracles. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Eux-mêmes, c'était une équation qui était un peu difficile pour pouvoir résoudre. Comment est-ce qu'ils allaient punir Pierre et Jean, les battre, ou bien les frapper, ou bien les mettre en prison parce qu'ils ont accompli un miracle? Et ils ne pouvaient pas parce que tout le peuple était en train de dire, ah, c'est eux qui ont guéri, ils ont guéri le boiteux, ils ont guéri le boiteux. Au nom, ah, mais vraiment, leur Jésus, il est puissant, le boiteux est guéri. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne pouvaient rien faire. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Il est né comme ça, il était âgé de plus de 40 ans. Donc, c'est des générations et des générations qui le connaissent comme boiteux. Amen. La partie qui nous intéresse maintenant se trouve à partir de maintenant, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc, ils sont allés vers les leurs. Vers les leurs, c'est ils sont allés dans leur assemblée, dans leur église. Ils sont allés là où les frères se réunissaient en ce moment-là. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur. Donc toute l'église, après les avoir entendus, se sont levés et ils ont élevé la voix. Élever la voix, ça veut dire élever la voix. Ça veut dire qu'ils ont crié, ils ont parlé à voix haute. Il y a certains moments, l'assemblée prie à voix basse. Il y a certains moments, l'assemblée prie à voix haute. Il y a des personnes qui sont gênées lorsqu'elles arrivent dans un mouvement pentecôtiste ou évangélique, où les chrétiens élèvent la voix et prient à haute voix, pour eux ça les dérange. Mais sachez que il y a des moments où on prie à haute voix, il y a des moments où on élève la voix. C'est arrivé à Jésus, quand vous regardez dans Hébreux, la Bible dit que c'est avec des grands cris dans Hébreux chapitre 5 verset 7, en parlant de Jésus, on dit c'est lui qui dans les jours de sa chair a dressé avec des grands cris des prières à Dieu, qui pouvait l'exaucer. Donc même Jésus a crié à Dieu. Et c'est tout à fait normal que l'église de Jésus, les enfants de Dieu, puissent également crier à Dieu à certains moments. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église-là, dans l'église primitive. C'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Ils se sont tous levés spontanément et ils ont élevé la voix tous ensemble et ils ont dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. Amen. Quelle vérité, quelle prophétie et quelle vérité. Jusqu'aujourd'hui, les rois de la terre se sont levés contre, loin de l'Éternel, contre Jésus-Christ de Nazareth. Et ils véhiculent des mensonges sur la personne de Jésus, en insinuant que il aurait eu des rapports sexuels avec Marie de Magdala, par exemple, et qu'il aurait des enfants. Moi, je trouve que les gens du monde ont quand même du culot. Surtout lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, personne ne peut même oser parler du prophète Mahomet. Il n'y a pas un roi de la terre qui peut oser ouvrir sa bouche. Il n'y a pas un chef d'État ici en Europe ou un ministre ou un ambassadeur qui peut dire quoi que ce soit de Mahomet. Même le pape, il est obligé de se rétracter. Parce que eux, ils ne jouent pas. C'est ça, non? Pourtant, il est bien clair, historiquement parlant, c'est prouvé que Mahomet est un pédophile. Clair. Parce qu'il y a des preuves. Les mariages ont été enregistrés. Les dots ont été payés, ça a été enregistré. Sa première femme même, c'était la femme de son fils. Une de ses femmes, oui. Il a épousé une des femmes, une femme qui devait se marier à son fils. Marié. Mais personne n'a le droit même de dire la vérité. Personne ne peut parler de ça. Parce que tout de suite, ils vont aiguiser leur couteau ou ils vont faire sauter une bombe quelque part. Mais on peut véhiculer des mensonges sur Jésus. On peut insinuer des choses. On peut se liguer contre lui. Et c'est bizarre, mais ce sont les rois de la terre, les chefs de la terre qui se liguent. Jésus n'est pas un prophète spécial. Jésus n'est pas ceci, n'est pas cela. Les gens se lèvent, ils essaient de tout faire pour empêcher le message de Jésus de pouvoir parvenir aux hommes et aux nations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. J'espère que la machine là n'est pas en train de se liguer aussi contre Jésus. Tu es consacré au nom de Jésus. Non, parce que dès qu'il s'agit d'annoncer la vérité, l'ennemi vraiment fait tout ce qu'il peut pour pouvoir s'opposer. Je vous dis, il n'y a pas un autre nom. Il n'y en a pas un autre. C'est seulement le nom de Jésus qui peut nous permettre d'être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Pas d'autre nom. David avait vu ça. Il dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il y a des tumultes dans les nations. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. Ils ont beau se liguer, ils peuvent pas empêcher l'évangile d'avancer. Ils ont beau se liguer, ils peuvent pas empêcher Jésus d'être le Christ et de guérir, de délivrer qui il veut, quand il veut, où il veut. Ils peuvent pas empêcher son royaume d'avancer et ils peuvent pas empêcher son règne de s'établir. Ils ne peuvent pas empêcher le Christ de sauver des âmes, de sauver ses enfants, de sauver des vraiment qui il a envie de sauver. Alléluia. Et même dans le temps, du temps de Pierre, les religieux du temps se sont levés pour empêcher qu'ils prêchent au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas pu les empêcher. Jusqu'aujourd'hui, des milliards de personnes ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et il y a des conversions qui se font dans tous les milieux, dans tous les endroits, dans toutes les couches sociales. Et quel que soit le pouvoir qui veut s'élever, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est la Bible qu'on utilisera pour pouvoir faire son funérail. La Bible a survécu à tous ses détracteurs. Et la Bible survivra à tous ses détracteurs. Cette Bible-là, on va la voir jusqu'à la fin des temps. Même si les gens arrivent à interdire, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont contre l'évangile. À un moment, ils seront obligés soit de falsifier, soit d'interdire la Bible. Parce qu'on a beau dire que, on va dire souvent, mais lui, il revient toujours sur l'islam, l'homosexualité, ceci, cela. Mais c'est ça. On a beau dire que l'être homosexuel, c'est de l'avancée. La Bible dit que Dieu condamne l'homosexualité et tous les homosexuels iront en enfer. Même les efféminés. C'est ça qui est dangereux. Même les efféminés, tu n'es pas homosexuel, mais tu es efféminé. Tu marches comme une femme, tu fais comme les femmes, tu fais ta main façon, tu pars ça, en enfer. C'est pas normal. C'est un esprit qui te fatigue. Et tu as besoin de délivrance. Faut sortir de là. Amen. En effet. Mais pourtant, aujourd'hui, on montre à la télé des gens, des travestis, des gens qui ressemblent à des femmes, ce genre de... C'est fort, c'est dangereux. Le monde, effectivement, se ligue contre l'évangile. On le voit, c'est palpable. On peut le sentir dans l'air. Les choses se mettent en place. Petit à petit, on arrive vers une restriction de nos libertés. On arrive vers un moment où l'Église sera persécutée sérieusement pour ses convictions et pour la vérité. On arrive à un moment où il sera difficile de dire la vérité encore. Déjà, en ce moment, c'est difficile. On n'est pas encore arrivé au moment où vraiment on pourra te tuer même pratiquement parce que tu auras dit certaines vérités. Et il y a encore des endroits qui sont préservés. C'est vrai qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas annoncer l'évangile. Il y en a. Mais pourtant, c'est bizarre. Il n'y a pas de pays où on ne peut pas parler de l'islam. Comprenez? Le diable sait ce qu'il fait. Il interdit la vérité pour que le mensonge puisse prospérer. Et là où le mensonge s'est installé, on interdit à la vérité de venir. Et là où la vérité était, on envoie le mensonge. Pour pouvoir perdre les gens, pour pouvoir perdre des générations de personnes, pour pouvoir perdre des milliards de personnes qui, sans le savoir, vont directement en enfer. Parce qu'ils auront suivi quelqu'un qui lui-même ne s'est pas trouvé. Alors que Jésus-Christ de Nazareth, il a eu la victoire sur le seul ennemi qu'aucun homme n'a pu vaincre. Vous savez c'est quoi? La mort. C'est comme ça. Moi, je suivrai Jésus toute ma vie. Je vais m'accrocher à lui. Parce qu'il y a trop de gens qui ont parlé. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis cela. Mais quand la mort est venue frapper à leur porte, ils n'étaient plus rien. Ils sont morts. On les a enterrés. Leur corps a pourri. Ils ont été rongés par des bêtes et tout. Moi, mon Seigneur, Jésus, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a rendu l'âme, il y a eu un ébranlement dans le ciel et dans le monde spirituel. Lorsqu'il a rendu l'âme, des morts sont ressuscités, sont revenus à la vie. Et on l'a enfermé dans un endroit. Les chefs religieux du temps ont dit, assurez-vous que personne ne vienne voler son corps. Parce que les gens vont venir voler son corps, on se rappelle qu'il a dit que si vous me tuez 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Donc je vous dis, si quelqu'un peut s'approche même de ce tombeau-là, je vous en tiens pour responsable. Vous avez compris. Et les gardes étaient là 24 heures. Vous voyez, quelqu'un qui meurt et puis on met des gardes devant sa tombe. Suivez-le. Il est mort, mais il faut le suivre. Oh my God. My God. Ils ont dit, il faut surveiller-le parce que si jamais ils arrivent à prendre son corps, ils vont dire qu'il est ressuscité. Et ça va bouleverser le monde. Donc, il faut le surveiller. On dit qu'il est mort. Mais, le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Le troisième jour. Le séjour des morts ne pouvait pas le garder. Le séjour des morts ne pouvait pas le conserver. Le séjour des morts ne pouvait pas l'empêcher de sortir. Non, c'était pas possible. En fait, c'est même pas lui-même qui était pressé de sortir. Lui voulait toucher le maximum de personnes dans le séjour des morts. Mais sa présence dérangeait le séjour des morts. Il fallait qu'on le vomisse. Et le séjour des morts a dû le rejeter. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Il est le seul. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre dont la résurrection est prouvée. Il n'y en a pas un autre. Parce que non seulement il est ressuscité, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté aux gens. Il a rencontré des personnes. Il y a plus de 500 témoins qui l'ont vu et qui ont parlé avec lui. Qui l'ont vu. Il a marché sur la terre. Lui que vous avez tué, il est ressuscité. Dites-moi quel est l'homme qui est ressuscité sur cette terre en dehors de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore vivant. Et Pierre et Jean disaient, c'est à cause de ce Jésus-là que nous avons pu accomplir ces miracles. Et dans la prière de cette église, ils disent donc, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Quand Pierre et Paul sont venus raconter ce qui leur était arrivé, comment on les a arrêtés pour leur poser des questions. Au nom de qui vous avez fait ces miracles? Au nom de qui vous avez prié? Par quel pouvoir vous avez agi? Et qu'ils ont répondu, c'est par le nom de Jésus. Et ceci et cela, ils sont allés, quand ils sont rentrés chez eux, quand ils sont allés à l'église, quand ils sont retournés parmi leurs frères, ils leur ont dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, l'église tout entière s'est levée comme un seul homme. Et ils ont fait une prière d'unité, une prière d'union. La même prière, tous ensemble, d'un seul cœur, Seigneur, tu vois comment les nations se sont liguées contre ton oint. Tu vois comment les gens se sont ligués contre ton oint. Maintenant, lève-toi et donne-nous de pouvoir annoncer ton évangile et que des miracles, des prodiges et des guérisons s'accomplissent à travers nous. La terre a tremblé et l'église s'est levée et a commencé à annoncer l'évangile avec assurance. Vous voyez, il y a de la puissance dans l'unité. Il y a de la puissance lorsque l'Église se met ensemble et prie comme un seul homme. Il y a de la puissance lorsque vous vous accordez. Matthieu chapitre 18, verset 19 dit, « Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il y a de la puissance quand un homme, quand deux personnes peuvent s'entendre par rapport à un sujet. C'est une autre source de puissance. Lorsque vous vous accordez, lorsque vous pouvez vous entendre par rapport à un sujet bien précis et que vous priez ensemble, vous verrez l'accomplissement de cette chose. Amen. Le diable n'aime pas que l'Église fasse des prières d'union. Parce qu'il connaît la puissance de l'union. Il sait que un chassera 1000 et deux chasseront 10 000. Si aujourd'hui Paris ne connaît pas de réveil, si aujourd'hui la France ou les nations francophones ne connaissent pas de réveil, c'est parce qu'il est difficile de réunir tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination ou leurs églises d'appartenance, dans un lieu pour les amener à prier pour le réveil dans leur nation. C'est malheureux. Même si les chrétiens ne sont pas nombreux en France, ils peuvent remplir le Stade de France. Un stade, je ne sais pas de combien de places, 80 000 places, peut remplir ce stade-là. Et toute l'église se lève et prie d'une seule voix. Seigneur, donne-nous les nations francophones et que ton règne se répande dans ces nations. Et vous allez voir ce que Dieu va accomplir. Mais comme le diable sait que si nous sommes unis et que nous faisons des prières d'union, nous allons avoir le pouvoir, nous allons avoir la force, alors il s'arrange pour qu'il y ait la division. Le Seigneur a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est comme ça que dans un couple, imaginez un couple, ils disent, Matthieu chapitre 18 verset 19, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que dans un foyer, si le mari et la femme s'accordent pour demander quelque chose, Dieu va leur accorder cette chose-là. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es marié, tu dois entrer dans une dimension de puissance encore plus excellente. Tu dois pouvoir accomplir des choses encore plus grandes. Mais on parle des églises qui sont divisées, mais les foyers qui sont divisés. Où deux personnes ne peuvent pas s'accorder. Deux personnes ne peuvent pas faire une prière d'union. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, ne serait-ce qu'à deux, pour pouvoir demander quelque chose. Imaginez 1000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, 30 000 personnes. Même dans les églises locales, où il y a 40, 50, des fois 100, 200, 500 ou 1000 personnes. Même dans des églises locales, il n'y a pas de prière d'union. Chacun veut prier pour lui, pour son besoin. Même quand on donne un message, si on dit un message, bon, on va prêcher sur comment est-ce que l'église va rentrer dans la puissance. Ah non, ça c'est pas un message qui peut attirer des gens. Comment tu vas rentrer dans la puissance? Ah, ça c'est un bon message. Parce que chacun veut quelque chose pour lui. Chacun veut être béni. Moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, rends-moi. Seigneur. Mais est-ce que vous savez que il est bon, c'est vrai, d'être béni personnellement. Mais il est bon d'être béni avec les frères et avec les sœurs dans la foi. Alléluia. Et l'église ne sera véritablement prête à recevoir certaines bénédictions que lorsqu'elle sera prête à voir tout le monde être béni et non une seule catégorie de personnes. Vous avez des églises qui prient, Seigneur, envoie les réveils ici. Et surtout pas là-bas. Pourtant, c'est pas une bonne prière. Vous savez pourquoi? Parce que quand le réveil arrive dans un endroit, dans une ville, dans une région, dans un pays, ce sont toutes les églises qui sont remplies. Les gens se lèvent, ils décident d'aller à l'église. Il n'y a pas une seule église qui expérimente, non. Quand il y a un réveil dans un endroit, toutes les églises grandissent. Toutes les églises sont visitées. Toutes les églises commencent à expérimenter. Même si le pasteur ne veut pas marcher dans l'onction, pendant qu'il est en train de parler son même message qu'il a répété 40 fois, au moment où il est en train de donner le message, il y a une petite onction qui sort quelque part, il y a une parole de connaissance et tout, il est obligé. Il peut pas parce que le Seigneur dit, je mettrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos, voilà. Donc, c'est général. C'est généralisé. Mais il faut le vouloir. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait de réveil. Ils ne veulent pas. Des hommes de Dieu qui ne veulent pas. Comme ces sacrificateurs. Ces patrons-là. Ce sont des patrons, ces gens-là. Des patrons de l'église. Ceux qui voulaient dire à Pierre et à Jean de ne plus parler au nom de Jésus. Ce sont des patrons de l'église. Des gens qui avaient des grosses robes avec des fils d'or, des grosses bagues. Des grands patrons. Ça ne les arrange pas qu'il y ait le réveil. Ça ne les arrange pas que les âmes soient délivrées parce qu'ils ne pourront plus les exploiter. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Le diable est un imitateur. Il veut imiter Dieu. Vous savez, un jour, Dieu même a reconnu que l'union de l'homme, lorsque des hommes s'unissent pour faire quelque chose, même lui, il ne peut pas faire grand-chose. Regardez dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voyez, l'Éternel dit, voilà, ils forment un seul peuple. Ils ont une même vision, ils ont un même objectif qu'ils veulent accomplir. Maintenant, nul ne peut les arrêter. Aujourd'hui, le monde s'est uni. Vous avez vu ce nouveau mouvement-là qui vient d'être créé pour donner des médicaments des antirétroviraux aux gens des pays pauvres. Comment ils ont appelé ce mouvement-là? Unit Aid. Unité. Aide d'unité. Quand vous voyez ces institutions telles que les Nations Unies, c'est pour que le monde puisse parler d'une seule voix. L'ONU, c'est par là que l'Antichrist va établir son règne et sa domination sur le monde tout entier. Le monde est en train de s'unir. L'Europe est en train de s'unir. C'était l'Europe des 25, bientôt on va passer à 27. L'Afrique cherche à s'unir. L'Amérique s'unit. Les pays du Moyen-Orient s'unissent. Parce que c'est l'unité. L'unité est également une force. Amen. Et si aujourd'hui, l'islam a plus de pouvoir sur les politiques que l'Église, c'est parce que les musulmans savent s'unir, alors que les chrétiens sont divisés. Alors que les chrétiens sont divisés. Dans une même Église, même les fidèles ne peuvent même pas s'entendre. La division est terrible, au point que dans une même maison, le couple lui-même ne peut pas s'entendre. Les démons sont là. Vous-même, vous savez que ce sont les démons qui font que vous faites des histoires. Mais vous faites des histoires quand même. Parce que vous ne pouvez pas résister aux démons. Ça vous démange tellement qu'il faut que les démons, il faut qu'ils parlent à travers moi. Il faut que je lui dise deux mots. Il faut que je lui montre qui je suis. Mais pourtant, c'est même pas toi. C'est le toi-même, tu sais que c'est le diable qui est en train de semer la division au milieu de vous. Mais tu le laisses quand même s'exprimer. Non, je vais te montrer un peu qui je suis. Non, tu veux. C'est pas bon. Même dans l'église. Si déjà dans les foyers, les chrétiens n'arrivent pas à s'entendre. Dans l'église, c'est encore des problèmes. La sœur entre les sœurs, entre les frères, entre les tantes. Celui-là se lève pour pouvoir aider. Il veut vendre des livres. Ah non, mais pourquoi est-ce que c'est lui, il se prend pour qui? Il veut se jouer les zélés ici. Tant, il y a un groupe de personnes qui attaquent les gens qui veulent servir. Eux, ils ne font rien. Mais quand les gens veulent servir, c'est eux qui sont toujours en train de critiquer. Ils veulent pas que l'église aille quelque part. Vous savez, si nous qui sommes là, on s'unit et qu'on veut quelque chose, même si c'est une église de 100 000, je dis pas 10 000, je dis 100 000 membres, on l'aura. Mieux vaut avoir 3 personnes, 4 personnes avec qui tu peux t'entendre que d'avoir 1000 personnes et que ce soit la cacophonie. Parce que vous ne pouvez rien faire. Pourquoi est-ce que les religions marchent aujourd'hui? Des fois, vous vous posez la question. Mais ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas le vrai Dieu. Mais ils avancent. Ils bâtissent des temples. Ils bâtissent des écoles. Ils bâtissent des centres d'aide. Ils ont de l'argent. On leur fait des donations. Des gens même se sacrifient. C'est à cause de quoi? C'est l'unité. Parce qu'ils ont décidé de s'entendre pour atteindre un objectif. C'est puissant ça. Dieu lui-même a dit que contre ça là, il ne peut rien. Dieu a donné un pouvoir à l'homme qui fait que des couples qui ne sont même pas convertis, qui ne connaissent pas Jésus, quand monsieur et madame s'entendent pour faire quelque chose, ça marche. Mais vous, vous êtes comment et puis vous ne pouvez pas vous entendre. Pourtant, vous avez Jésus. Vous avez le Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui parlent en langue jusqu'à la maison même tremble comme ça. Mais tant que vous ne vous entendez pas pour atteindre un objectif, cet objectif-là ne sera pas atteint. C'est tragique, c'est malheureux. C'est malheureux. Tout ce potentiel-là dans l'église. Tout ce potentiel. Tout ce potentiel. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Avant de faire sortir Satan de ta maison, il faut que tu puisses t'entendre déjà. Il faut qu'il y ait déjà l'entente. Il faut qu'il y ait l'union dans la maison. Avant de faire sortir Satan de l'église, il faut qu'il y ait l'union dans l'église. Si l'église est divisée, vous avez beau dire Satan, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Satan est là, il dit continuez seulement. Vous n'avez rien vu. Vous ne pouvez pas. L'église doit s'unir. S'unir ne veut pas forcément dire partager les mêmes opinions, mais ça veut dire rechercher le même objectif. Si l'objectif de l'église était que les âmes soient sauvées, l'église n'allait pas avoir de problème pour s'unir. Est-ce que tu m'entends? Si l'objectif des églises, de toutes les églises, était que les âmes soient sauvées, que les païens soient évangélisés et soient sauvés, l'église n'allait pas avoir de problème. On n'allait pas avoir de problème pour s'unir. C'est parce que les objectifs sont différents. C'est parce que l'objectif pour certains, c'est de s'enrichir. L'objectif pour d'autres, c'est d'avoir une position sociale, d'être reconnu. Il faut qu'on dise que c'est lui le patron des chrétiens. Donc, quand un se lève, il dit non, bon, moi je vais être devant. L'autre dit, mais pourquoi c'est toi qui seras devant? C'est moi-même qui dois être devant. L'autre dit, non, mais vous de même là, vous êtes arrêté à quel niveau? Moi j'ai un doctorat, c'est moi qui dois être devant. L'autre dit, non, mais attends, ce n'est que pour ça. C'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que Jésus leur a fixés. Allez, faites des nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si l'objectif c'était de gagner le maximum de personnes, on n'allait pas avoir de problème. Qu'est-ce qui fait le problème? C'est quoi le problème? Si c'est Thomas qui l'a emmené au Seigneur, ou bien si c'est Jean qui l'a emmené au Seigneur, ou bien si c'est Paul qui l'a emmené au Seigneur, ou bien si c'est Jules qui l'a emmené au Seigneur. L'essentiel c'est qu'il est venu au Seigneur. Mais le vrai problème, c'est que non, il faut que Jules soit reconnu comme le meilleur. C'est moi qui ai la plus grande église. C'est moi qui prêche le mieux. C'est moi qui suis le plus fort. C'est moi que Dieu utilise. Et donc, ça crée des problèmes. Le diable joue dessus pour nous diviser. Je vais vous donner 2 exemples rapidement d'unité. Vous avez dans la Bible l'exemple de Ruth et de Naomi. Ça s'est soldé par des bénédictions, vraiment par la grâce de Dieu qui a surabondé. Vous avez l'exemple de Jonathan et de David. Amen. Jonathan qui était le fils du roi, David qui était un outsider. Saül même ne pouvait pas comprendre comment Jonathan pouvait aimer David. David, il veut prendre ta place, mais tu l'aimes quand même. Oui. Ils étaient unis. Vous avez des exemples de division. Vous avez Joseph et ses frères. Dieu veut élever Joseph, mais ses frères ne sont pas d'accord. C'est ça qui crée, tu vois, c'est ça qui crée la division. Tu vois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, mais tu veux t'opposer à ça. Mais aide-le. Qui t'a dit que Dieu n'a pas quelque chose de meilleur pour toi? Il ne l'a pas encore révélé. Mais qui t'a dit qu'il n'a pas quelque chose de meilleur pour toi? La Bible dit, si vous êtes fidèle dans ce qui appartient à autrui, Dieu vous donnera les vôtres. Si tu aides ta sœur à sauver son mariage, tu penses que quand toi ton mariage aura des difficultés, Dieu ne va pas t'aider. Mais quand c'est toi qui viens donner les mauvais conseils, faut quitter là. Il est mauvais. Demain, quand toi aussi, tu traverses des difficultés, les gens vont venir pour te dire, non, faut pas quitter. Ou bien, on va aller dire ça à ton mari. Faites attention. Amen. Ésaü et Jacob étaient divisés, deux frères. Ils ont fait des histoires, des palabres. L'unité est meilleure que la division. On va prendre Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 9. C'est juste après le livre des psaumes, proverbes, vous avez Ecclésiaste. Chapitre 4, verset 9. Il dit ceci, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. La corde à trois fils ne seront pas facilement. L'unité va nous apporter de l'aide dans l'épreuve, dans la solitude ou dans le découragement. Quand la Bible dit si l'un tombe, ça veut dire que si l'un descend, si l'un est découragé, si l'un est éprouvé, si l'un se sent seul, si l'un n'a plus de force, alors l'autre va lui apporter l'encouragement. Tu sais, tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, mais sans forcément être deux. Parce que c'est justement dans l'épreuve que tu sais si vous êtes deux. C'est dans la solitude que tu sais, ben, en fait, si normalement vous êtes deux, que vraiment les choses ne vont pas comme il se doit. L'autre doit pouvoir venir te soutenir, doit pouvoir venir t'aider. Si quelqu'un doit te comprendre, ça doit être l'autre. Amen. L'unité est meilleure. Parce qu'elle permet de relever celui qui tombe. Elle permet aussi de soutenir le faible. Parce que à un moment donné, l'un peut être plus faible que l'autre. Et il faut que celui qui est fort puisse soutenir celui qui est faible. Et pour la protection des attaques, si l'un est attaqué et que l'adversaire est plus fort que l'un, la Bible dit les deux peuvent lui résister. Quelle que soit sa force, les deux peuvent lui résister. Parce que pendant qu'il est occupé à se battre avec l'un, l'autre peut le surprendre par l'arrière. Même s'il est l'homme le plus fort de la terre, les deux peuvent lui résister s'ils s'accordent. Mais s'ils sont divisés, ils ne pourront rien faire. Ils seront écrasés, ils seront battus. C'est pour ça que la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, à certains moments de la vie de l'Église, il est important de faire des prières d'union. Des prières d'unité, c'est la même chose. Il est important que l'Église s'unisse pour demander quelque chose. Il est important que tout le monde prie de même accord et demande la même chose. Nous avons des prières générales qui touchent à un aspect qui bénit l'assemblée tout entière, le corps de Christ tout entier. Et il faut qu'on arrive à ce stade-là, ici en France. Il faut qu'on arrive au jour où toutes les églises, comme un seul homme, vont se lever. Bon, entre autres, ils vont marcher, c'est bien. C'est bien de marcher. Mais c'est mieux de prier. Et de faire une prière d'union, de faire une prière d'unité. Si nous voulons aller loin, il faut qu'on apprenne à s'unir. Il faut qu'on apprenne à se soutenir. Malheureusement, c'est dans l'église que, lorsque tu as des problèmes, tes frères t'enfoncent encore davantage. Quand un pasteur a des problèmes, mais il faut qu'il ferme son ministère. Ah non, il doit fermer son ministère. Faut même plus, il n'a même plus le droit de parler. C'est fini ça. Tout ce qu'il a fait dans le passé, tout ce qu'il va faire dans le futur, tout ça, on ne veut rien savoir. Faut le tuer. Crucifiez-le. Les gens veulent jeter la pierre. Quand une sœur a un problème, oh, mais on vous avait dit que celle-là, elle n'est pas bonne. Les chrétiens n'ont pas, c'est dangereux. C'est dangereux. On doit se lever, on doit s'unir. On doit s'unir. Si nous voulons être forts, si nous voulons que notre voix compte, si nous voulons que l'État nous attribue des terrains pour qu'on puisse construire des temples, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse. Aujourd'hui, chaque commune est obligée de mettre de côté un terrain pour la construction des mosquées. C'est un pays dont l'histoire veut que ce pays soit un pays chrétien. Mais les musulmans ont plus de droits dans ce pays-là que les chrétiens. Pourquoi? Pas parce que leur Dieu est plus puissant. Pas parce qu'ils se tournent vers l'Est pour pouvoir prier. Pas parce qu'ils font de la gymnastique chaque matin. Chaque midi, chaque 16h et 8h, mais tout simplement parce qu'ils sont unis, c'est tout. C'est tout. Parce que si tu touches un musulman quelque part, en Iran, ils vont se lever, en Irak, ils vont se lever, en Afghanistan, ils vont se lever dans toutes les nations islamiques, en Jordanie, au Pakistan, au Maroc, ils vont se lever. Tu touches à un tous ils se lèvent. Mais quand tu touches à un chrétien, on dit, oh, c'est un mauvais. On vous avait dit. Personne pour soutenir le chrétien. Regardez, ils ont fermé des églises ici. Quels sont les pasteurs qui se sont levés pour dire, non, on ne ferme pas d'église ici en France. Au contraire, ils sont contents. Oui! Moi, je dis, ils sont contents. Moi, j'ai reçu des appels. Une fois, j'étais aux États-Unis en tournée, j'ai un pasteur d'ici, de Paris, grand pasteur, il avait une église, très grande église, il devait être même près de 600. Il m'appelle, Taco, je t'ai pas dit, ce gars-là, son ministère est fini ici à Paris. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre la nouvelle, on a fermé son église. Je t'ai dit, le temps est arrivé, Dieu va nettoyer l'église maintenant. 3 mois plus tard, lui-même, ils ont fermé son église aussi. Il allait faire ses cultes à LSC. Après ça, il a cherché un coin dans un bled quelque part. C'est lui qui s'est appelé les jugements de Dieu sur les pasteurs. Quand je parle avec lui, un tel c'est un rosicrucien, un tel c'est un franc-maçon, tous les pasteurs sont mauvais. Il était content parce qu'on avait fermé l'église de son frère. C'est fort! Non, aujourd'hui, n'importe, il y a même des villes où le maire, il débat carrément en plein culte, il dit, allez, sortez. Et puis on ferme l'église. Et les chrétiens acceptent ça. On accepte ça. On accepte ça. Pas d'unité. Pas d'union. On dirait que c'est dans l'église que cette loi-là vraiment marche le plus. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est la devise des chrétiens. C'est pas bon. L'église doit être soudée. L'église doit être unie pour que l'église soit forte. Les chrétiens doivent être unis pour que les chrétiens soient forts. Le couple doit être uni pour qu'il soit fort. Les enfants de Dieu doivent s'entendre. Ils doivent s'unir pour être forts. Car un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est pour ça que il y a la prière d'union, la prière d'unité. Lorsque tu es trop faible pour pouvoir prier, lorsque tu n'as pas assez de force pour prier, lorsque tu es découragé, lorsque tu es abattu, Il est important et il est bon d'avoir ses frères et ses sœurs autour de soi. Et qu'ensemble, on puisse porter le sujet comme un seul homme. Ça aussi, c'est une manière de prier. Et c'est une manière de prier qui est puissante. Lorsque l'Église est éprouvée, lorsque certaines personnes dans l'Église sont fatiguées, il faut que les autres puissent également soutenir cette personne-là. Et qu'ensemble, on fasse monter des prières d'union et d'unité. Alléluia. Pour que Dieu agisse. Quand Pierre et Jean ont eu ce problème, des gens pouvaient se lever dans l'église et dire, mais vous-même là, qui vous a envoyé? N'est-ce pas? On peut dire, mais qui vous a commandité? Qui vous a dit même d'aller prier pour ce paralytique-là? Vous aimez trop chercher des histoires. Voilà, maintenant, aujourd'hui, ils vont se retourner contre nous. On vous a pas dit d'aller là-bas. N'est-ce pas? Au moment où Pierre et Jean sont allés faire le miracle, est-ce que l'église était avec eux? Ils n'étaient pas avec eux. On pouvait leur dire, bon, asseyez-vous, conseil des disciplines. Expliquez-nous comment est-ce que vous avez fait pour vous trouver dans cette situation. Mais quand l'église a eu le rapport, la première réaction, c'était pas de critiquer. C'était pas d'insulter. C'était pas de faire des investigations. Parce qu'il y en a, ils voulaient être détectives privés, mais comme ils ont raté ça dans le monde, ils sont devenus maintenant des commissaires de police dans l'église. Est-ce que dans les ministères, là, on a mis ministère de commissaire ou bien d'inspecteur ou bien d'enquêteur? C'est eux qui savent toujours poser les questions. Frère, dis-moi. Le Seigneur a dit prier. Alléluia. Quand ils sont venus, ils ont fait le rapport. Ils ont fait le rapport. L'église a dit non, il faut qu'on réagisse. Et quelle était la réaction? C'était pas les conseils de discipline. C'était la prière. De comme un seul homme, ils se sont levés. Ils ont dit, Seigneur, voilà que les nations et les rois de ce monde, comme l'a dit ton serviteur David, se sont ligués contre ton oint Jésus. Maintenant, agis au milieu de nous, afin que, lorsque nous prêchons l'évangile et partout nous allons, des miracles, des guérisons, des délivrances se produisent. Et Dieu a répondu. Alléluia. Il a répondu.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.